Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 5, épisode 58 de ce lundi 6 mai. On salue les gars d'après qui sont avec nous, Simon-Olivier Laurent, salut.
Salut.
Richard Labbé qui est là, salut Richard.
Salut Jérémy.
Et pour le 98.5 FM, Stéphane White, salut Stéphane.
Salut les gars.
Bon, les gars, aujourd'hui, là, on va se parler d'une multitude de choses. On va se parler du deuxième tour des séries. Je ne sais pas si on va faire des prédictions. Écoute, je regarde mes statistiques du premier tour. On va laisser faire, je pense.
Ben, les prédictions...
Non, Richard, arrête. On ne fera pas de prédictions. Ceci étant dit, on va parler de ça. On va parler du deuxième tour. Mais on va parler aussi... Il y a la loterie qui s'en vient, savez-vous.
Parlant de prédictions.
Oui, c'est ça. Il y a la loterie qui s'en vient.
C'est dire la loterie. Ça. On peut faire des simulations. Là.
Si vous reste un chapelet à la maison, mettez-le sur la corde à linge. Ça va se passer prochainement. On se croise les doigts pour le Canadien. On va se parler d'une multitude de choses, mais dans un premier temps, on apprenait, puis oui, on va se parler de Toronto, oui, on va se parler de Boston, mais je veux juste débuter avec une nouvelle, c'est qu'on apprenait que Rick Bonus prend sa retraite avec les Jets de Winnipeg. Donc là, ça fait plusieurs, il y a plusieurs postes d'entraîneur-chef qui seront disponibles. J'appelle ça le festival du nouveau coach qui commencera sous peu du côté de la Ligue nationale de hockey. Là, vous avez les Jets, le Kraken, les Sharks, peut-être Toronto, pas de contrat pour Brind'Amour en Caroline. Est-ce que le New Jersey avec Travis Green va poursuivre? Les gars, je veux savoir dans un premier temps réaction.
À Saint-Louis, hein?
À Saint-Louis, Saint-Louis, t'as raison.
Encore par intérim, Drew Bannister.
OK, on met Saint-Louis en plus là-dedans. Mm. Ben, je vais avec toi, Stéphane. Tiens, t'as commencé à parler, on va y aller avec toi. Dans un premier temps, peut-être une réaction sur Rick Bonus. On sait qu'il a quitté pendant la saison, pendant un certain temps, pour aller au chevet de sa femme. Il est quand même en nomination pour le Jack Adams. Il prend sa retraite.
Moi, ouais, écoute, une belle carrière, Rick Bonus, en passant, c'est un gentleman. Tout le monde l'adore.
Un des plus fins de la business.
Ah oui?
Il est incroyablement fin, t'as raison. 69 ans, écoute, c'est un travail très, très demandant. 69 ans, écoute, quelle carrière. Comme tu dis, finaliste Jack Adams, puis tu prends ta retraite. Ça, c'est le fun. C'est la façon.
Ce serait le fun qu'il gagne.
Ouais,
imagine, tu gagnes, t'as
exact, ouais. Mais quelle façon de finir ta carrière en disant je prends ma retraite, 90% des coachs finissent leur carrière en étant congédiés. Et puis, c'est une belle carrière. Je pense qu'il prend la bonne décision, surtout qui s'est passé avec son épouse. Je pense qu'à un moment donné, les priorités changent. Et puis, en passant, les gars, Rick Bonus est devenu entraîneur-chef avec les Jets de Sherbrooke.
Oh, t'es pas joueur-entraîneur à ce moment-là?
Il était joueur-entraîneur. Ouais, c'est Reggie le dernier Reggie Dunlap. Il est arrivé entraîneur-chef par erreur parce qu'au début de la saison, on avait un Ron Rassett ici à Sherbrooke qui était diagnostiqué d'un cancer. Il y a un diagnostic de cancer. Et Rick Bonus, par la force des choses, est devenu joueur-entraîneur nommé par mon bon ami Georges Guilbeault ici à Sherbrooke. Donc, quand je rencontrais Rick Bonus dans la Ligue nationale, il me parlait tout le temps de Sherbrooke. Il savait que je venais de Sherbrooke. Puis il disait « Ah, Sherbrooke, j'ai commencé là. » Tout ça pour dire, belle carrière à Rick Bonus.
Et c'est drôle parce qu'avec tout ça, Martin Saint-Louis devient un des coachs qui a le plus d'ancienneté dans la Ligue nationale.
Avec la même équipe.
Parce qu'il y a tellement tout le monde qui sont fait mettre dehors. Je pense qu'il est septième, si je me trompe pas.
Il est septième parce que Bonus avait été nommé après lui.
Après lui.
Ouais,
c'est incroyable.
C'est sa deuxième saison en Bonus.
Avec la même équipe, évidemment.
Exactement.
OK, là, on va aller dans le crunch. On va aller dans le sérieux. Là. Toronto, Sheldon Keefe, est-ce que ça revient?
Mais
là,
non.
Là, on va parler, puis probablement que quand les gens vont écouter ça dans 24 heures, la moitié du club va être parti, fait que ça sera plus bon.
Non, mais
c'est
important.
Mieux de pas parler de Toronto.
Non, mais c'est important de l'écouter là. Vous allez le savoir là. Simon-Olivier, je commence avec toi.
Je pense pas, honnêtement. Je pense qu'à Toronto, puis on en a parlé la semaine passée, on a beaucoup joué au, tu sais, est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est pas cette année, au cours des dernières années. C'était toujours le même refrain, une élimination hâtive, même si l'année passée c'était au deuxième tour, mais c'était hâtif au deuxième tour. On se disait qu'est-ce qui va se passer, puis on changeait rien. Et là, ma compréhension, c'est que c'est probablement là que ça va se passer, qu'on va changer des choses et non pas une chose. Et je pense qu'un entraîneur-chef, c'est inévitable rendu là, même s'il y a un nouveau contrat qui rentre qui commence
la saison prochaine.
Là, c'est ça, effectivement. Sauf qu'en même temps, on a tellement d'argent là-bas. C'est quoi payer un puis deux coachs en même temps, plusieurs millions par année? Puis je pense même pas que c'est seulement de sa faute à lui. En fait, c'est certainement pas de sa faute à lui seulement, mais ça devient à un moment donné insoutenable comme situation à Toronto. Encore évidemment, on est passé à un but de gagner, mais c'est le encore qui est vraiment la clé. Et je pense pas que ça puisse continuer. Et je sais pas si vous avez vu l'extrait passé sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Il y avait Craig Berube, l'ancien coach des Blues de Saint-Louis, qui semble-t-il était sur les rangs dans différentes équipes, notamment les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Et qui s'est fait interpeller. Il se tirait la pipe un peu avec Paul Bissonnette, l'analyste à la télé. Et Bissonnette, il a dit, regarde, si t'arrêtes pas, je vais juste dire à tout le monde que tu deviens entraîneur-chef des Blues de Toronto. Ouais. Et Berube a gelé. Complètement.
Pour vrai?
Fait que je sais pas si il s'attendait juste pas à se faire dire ça, puis s'il y a pas rien là, ou si carrément il y a eu des discussions sérieuses et qu'on attend juste de le présenter jeudi, alors que ça va être le bilan du management de la haute direction des Leafs. Mais ouais, mettons que présentement, je dirais que j'aime les chances que Berube se retrouve à Toronto, d'autant plus que c'est Elliott Friedman qui disait ça ce matin, qu'il serait plus dans la liste à Ottawa, ou en tout cas, je sais pas si c'est lui ou les Sénateurs, mais ça sent Toronto.
Il y a eu un nouveau haut placé qui est arrivé dans le rang, dans les de Maple Leaf Sports and Entertainment, ouais, qui prend beaucoup de place. Là, j'oublie son nom. Simon-Olivier va aller trouver ça pour nous autres. Mais semble-t-il que le monsieur n'a pas beaucoup de patience, apparemment, comparativement avec ses prédécesseurs. Et que,
mais s'il n'y a pas de patience, il regarde ça un moment donné du côté de Brendan Shanahan.
Ah, ça, c'est sûr. Je pense que ça, en fait, moi, je suis même surpris que lui soit encore là. Mais je pense que si on fait un énorme coup de balai, puis je pense qu'on va en faire un, je pense que Brendan Shanahan va y passer également. Parce que, oubliez pas, ce qu'on a vendu là-bas, les médias de Toronto ont appelé ça le Shanahan Plan, c'est-à-dire un genre de plan de 5 ans, je sais pas trop comment que c'était, que lui devait arriver là, puis que c'était un des meilleurs cerveaux du hockey qui allait permettre aux Leafs de retrouver leur gloire d'il y a très, 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 très longtemps. C'est pas encore arrivé. Hey, honnêtement, là, l'élimination de 2021 là, contre le Canadien, tu sais, ici, tout le monde a fait le party, là, mais là-bas, là, écoute, c'était un désastre, là, cette affaire-là. Puis ça me surprend qu'on n'ait pas passé un balai avant ça, surtout après cette déconfiture-là face au Canadien. Là-bas, c'était 3-1 encore. Là. Mm-hmm. Le Canadien, il remonte. Et on réussit à gagner.
Et non seulement on n'a pas passé de balai, mais le mot de Brendan Shanahan, le lendemain ou le surlendemain du septième match, c'était on changera rien. Mm-hmm. On continue comme ça. Mm-hmm. Et ça lui est beaucoup, beaucoup, beaucoup rappelé ces jours-ci. Et le nom que tu cherchais tantôt, c'est Keith Pelley,
voilà,
qui est le nouveau président.
Qui semble-t-il n'est pas un monsieur très patient. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de John Tavares, souvenez-vous, là, les médias torontois avaient fait que c'était pratiquement comme si on allait chercher le
seigneur.
Le seigneur, pratiquement. Le gars de la place qui met une photo de lui dans des pyjamas ou dans des draps des livres quand il était jeune. Puis on va chercher John Tavares. Puis c'est le sauveur, pis tout. Depuis que lui est arrivé, là, l'affiche des Leafs, puis je dis pas que c'est de sa faute, mais l'affiche des Leafs en série dans des matchs décisifs, ça veut dire tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres chez vous, 1-11.
Ça fait mal.
1-11.
Ça fait mal sur le leadership. Stéphane, t'en penses quoi, toi?
Ouais, c'est pas drôle parce que c'est fait après 5 ans qu'on dit bon, mais là, il va y avoir un gros ménage. Ils viennent de perdre un autre gros ménage. Ben oui, donc, les gars, il n'aura pas de gros ménage.
Ah, tu penses que tout le monde revient au mois d'octobre comme si de rien n'était?
Mais là, tu parles-tu pour les joueurs, Stéphane? Pour les joueurs, selon toi, ça ne va pas bouger? Ou tu parles pour le management?
Moi, personnellement, écoute, je pense que Sheldon Keefe va perdre son emploi. Pas parce qu'il a mal fait, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. C'est la seule et unique raison. Parce que comme coach, il a fait un bon travail. Il a encore mené les Leafs à une saison de plus de 100 points. Il est devenu à un lancé, de passer les deux premiers tours. Si c'est le contraire, là, les Maple Leafs passent le premier tour, tout est beau, ils sont meilleurs, tout est parfait, on passe à autre chose. Mais tu sais, c'est là que je dis, à un moment donné, là, c'est un lancé. Et puis, le plus gros problème des Maple Leafs, c'est qu'ils jouent dans la meilleure division de la Ligue nationale contre la Floride, contre Tampa.
Contre le Canadien.
Ouais, mais attends, Stéphane, là. Moi, je trouve. Attends, je vais te laisser
Boston,
pour ça. Attends une minute, Stéphane. Juste à dire, je comprends, là, mais j'ai l'impression que j'entends les défaites que le management va donner à Toronto. Tu sais, ce club-là est bâti pour aller loin, gagner des championnats. Le payroll est en fonction de ça. Ils ont le meilleur pointeur de la ligue, puis ils font rien depuis tout le temps.
Faut que je finisse.
Vas-y. Excuse-moi, je m'emballe.
Sheldon Keefe va perdre son emploi parce qu'il faut qu'il perde son emploi, pas parce qu'il fait pas une bonne job. OK? Et même lui, là, j'ai comme l'impression qu'il sait un peu qu'est-ce qu'il veut parce qu'il a annoncé, il a dit ce matin, il a dit nous n'avons pas répondu aux attentes et en tant qu'entraîneur, j'en prends le blâme. Ça veut dire, là, gars, c'est de ma faute, mettez-moi dehors, il me reste 2 ans de contrat, puis ça va m'aider à me trouver un autre job ailleurs, puis de repartir sur une page blanche. Ceci étant dit, moi, si je suis le gérant général, je regarde du côté d'un joueur, c'est Mitch Marner. J'ai pas de trouble avec Matthews. Matthews, là, malgré tout ce qui est passé, a eu des bonnes séries quand il était en santé dans les 3 premiers matchs. Il était très bon. Après ça, on sait qu'il a eu, il l'a dit un matin, il était malade et puis il n'y a plus d'énergie, plus rien dans le tank. Marner, Nylander a fait qu'est-ce qu'il a pu malgré une blessure. Donc, ça mis ensemble fait que j'ai pas de trouble avec ces gars-là. Dans le filet, on dit souvent dans le filet, j'ai confiance en l'avenir avec Joseph Woll. J'ai confiance en ça. Moi, mon problème, c'est Mitch Marner. Il reste 1 an de contrat. Il va demander au moins 10 millions dans 1 an. Et puis, pour moi, et premièrement, ils ne seront pas capables de le signer. Et deuxièmement, j'essaierai de le passer pour essayer de trouver un top 3 à la défense. Et ça changerait beaucoup de choses. J'aime le fait que Domi t'a emmené du papier sablé. J'aime le fait que Bertuzzi a emmené du papier sablé. Mmh. Il manque pas grand chose à
mais
cette équipe-là.
Mais ces deux-là sont joueurs autonomes sans restriction,
Oui, mais le problème aussi, c'est qu'avec Marner, il faudrait juste qu'il lève sa fameuse clause d'échange, de non-échange. Donc, tout ça pour dire que, pauvre, on revient à Sheldon Keefe. Il va payer le prix, mais je pense qu'il a fait un bon travail.
OK, moi, je veux juste ajouter quelque chose. J'ai l'impression que, puis moi, je pense que c'est rationnel quand tu dis, si t'enlèves Marner, tu rajoutes un top 3 en défensive, t'as un club qui est plus solide. Ça, j'achète ça, Stéphane, à 100%. Maintenant, j'ai l'impression que le grand cirque de Toronto, c'est pas ça qu'on va faire. C'est-à-dire, si on enlève Marner, je regardais Stamkos quand il était éliminé avec le Lightning de Tampa Bay, les yeux dans la graisse de bine en regardant la glace. Je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on voyait Stamkos avec le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que Toronto sera pas tenter d'aller mettre la main sur Stamkos pour encore une fois ajouter du punch à l'attaque au lieu d'aller chercher un bon défenseur? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben moi, personnellement, je pense qu'ils feraient la même erreur qu'ils ont fait avec Tavares.
Moi aussi, mais ils sont bons pour faire ça.
Exactement. S'ils sont ça, mais écoute, sont plus mêlés que je pensais.
OK, Simon-Olivier, tu me regardes avec une face de point d'interrogation.
Ben oui, en fait, il y a plusieurs points d'interrogation. D'abord, comment ils payent? Parce que, je veux dire, Stamkos, il demandera, il va pas jouer gratis, comme on dit, présentement.
Si t'enlèves Marner, mettons, Marner est à combien, là?
Le Marner est à 10.
Non, mais t'enlèveras pas Marner.
11 millions, mais c'est parce que Marner, je pense pas que tu peux l'enlever, puis qu'il reste 0$, tu sais, je pense pas que tu veux l'envoyer pour des considérations futures, d'ailleurs, tu sais, je veux dire, Marner, si t'échanges un joueur du
avec
calibre
les
de Mitch Marner.
Ah non, ils sont plus là, c'est ça
remarche. C'est drôle que tu dises ça, parce qu'aujourd'hui, je m'en venais, justement, au balado, je me disais, où est-ce qu'ils pourraient échanger Mitch Marner? Puis là, je me suis dit, les Coyotes d'Arizona, je me disais, ah, ben non, ils veulent dépenser de l'argent, eux autres. Mais quoi, on rit, mais cela dit, c'est une équipe qui a maintenant beaucoup d'argent à dépenser et qui pourrait peut-être se le permettre. Mais après ça, qu'est-ce que tu donnes pour ce joueur-là? Parce que c'est compliqué, parce que c'est un joueur de 100 points. Donc, je veux dire, les Leafs auraient raison de demander beaucoup, mais tu sais que les Leafs sont pris à la gorge, puis que s'il faut qu'ils n'échangent un, fait que là, je pense pas qu'ils sont en position de force pour négocier. Moi, je pense que si le coup de maître des Leafs, mettons qu'ils rêvent de Stamkos, c'est de réussir à se débarrasser de Tavares, de remplacer par Stamkos, qui est une version, pour moi, à 10... Ben, je pense que Tavares, globalement, a peut-être encore plus de hockey que Stamkos a donné. Il est un petit peu plus jeune aussi, mais Stamkos est pour moi un plus grand leader que Tavares. Ouais. Et à Toronto, c'est ce qui a fait défaut. Et je dis pas que Tavares n'a pas de qualité de leadership, mais au fil des années, souvenez-vous, l'année passée, on est allé chercher Ryan O'Reilly. L'année d'avant, on est allé chercher Mark Giordano. On allait chercher un paquet d'anciens capitaines pour dire, ça y est, on a réussi là enfin à avoir du leadership. Mais c'était toujours des solutions de rechange, alors que là, on aurait un vrai leader, mais on s'en sort pas. Le problème, je pense pas que Toronto est à un gros attaquant, 10 millions, d'être une équipe gagnante. Il manque au moins 2 défenseurs pour vraiment, 2 défenseurs solides. Là, on est en train de se dire à Toronto, est-ce qu'on donne une longue prolongation de contrat à Jake McCabe, qui va avoir 31 ans à l'automne? Devant le filet, moi, je pense que ça prend un bon vétéran pour seconder Wall, pour vraiment entrer dans cette nouvelle ère-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantiers et échanger un de ces joueurs-là en fait partie, puis c'est probablement le plus complexe, ce chantier-là.
Puis dans leurs 5 joueurs vedettes à Toronto, ils ont tous des clauses de non-mouvement.
Exact.
Donc, si tu essaies de faire quelque chose, ça va être avec leur approbation. Ça ajoute une couche de compliqué à ces dossiers-là. Mais comme disait Simon-Olivier, je pense que Marner, comme si t'étais dans un monde de pas de plafond salarial, t'essayes de quoi? Mais là, je sais pas, il y aura pas autant, il est attirant quand même, parce que comme tu l'as dit, Simon Olivier, c'est un gars de 100 points, mais ça va être compliqué d'échanger un contrat comme ça. Je parle juste du contrat.
À moins, puis je le dis en deux secondes, à moins que les Leafs gardent la moitié.
Ouais.
Parce que, je veux dire, là, Marner gagnera 11 millions la saison prochaine. Disons, on est dans la haute spéculation, s'ils réussissent à échanger Marner en gardant 5,5, ben ils sont capables de se trouver un défenseur à 5,5
ouais,
qui va les aider demain matin. Évidemment, les 100 points de Marner, tu les remplaces pas sur le champ, mais je pense que
peut-être que la production offensive d'Austin Matthews va diminuer si Marner n'est pas là.
Mais peut-être que le jeu collectif va gagner au change aussi. Fait que c'est,
OK, je rajoute une couche là-dessus. Stéphane, puis je veux t'entendre. J'ai l'impression, moi, qu'à Toronto, c'est l'Austin Matthews show. Tu vois-tu, tout tourne alentour d'Austin Matthews. Dans la saison, il faudrait qu'il marque des buts. Il est là jusqu'au dernier match. On l'a pas reposé. Go, vas-y, marque-nous 70 buts, s'il te plaît. C'est bon pour nous. Là, on arrive en série. Il est pas là, puis ce club-là joue mieux. Quand Austin Matthews n'était pas sur la glace, tout le monde a pris le rayon de soleil qui habituellement plombe sur Austin Matthews. Tu sais, je veux pas dire, moi je dis pas enlever Austin Matthews, mais mon Dieu que ça tourne alentour d'Austin Matthews, ce club-là, Stéphane.
Oh, t'as totalement raison, et j'ai fait le commentaire la semaine passée, justement avec notre bon ami Mario Nadlois, que je trouvais que les Leafs jouaient de la bonne façon quand que Matthews n'était pas dans l'alignement. Ils ont eu deux victoires quand ils ont remporté les matchs 5 et 6. Matthews n'était pas là. Et c'était les meilleurs matchs sur les deux côtés de la patinoire des Leafs. Quand on dit jouer de la bonne façon, ils n'ont pas triché, ils n'ont pas essayé de forcer les jeux. En arrivant à la ligne bleue, il n'y avait pas d'ouverture. On envoyait la rondelle dans le fond du territoire. On jouait beaucoup plus prudemment dans notre zone. Et puis, ils jouaient de la bonne façon. Et c'est drôle, coïncidence, Matthews n'était pas dans l'alignement.
Ben, il est en nomination pour le Selkie quand même.
C'est fou, ça.
Juste le rappeler.
Oui, mais ça c'est ce trophée-là.
Non, mais on pourrait l'échanger, c'est Toronto pour l'échanger.
On pourrait faire un show que sur ce trophée-là, les critères.
Ah, ça n'a aucun sens.
On va parler de Jordan Staal, moins 14 aussi, qu'elle a nominé pour le Selkie,
mais
en tout cas.
Mais j'allais dire Toronto pourrait l'échanger, Austin Matthews au Coyote d'Arizona. Ah non, c'est vrai, ils sont plus là. Juste avant qu'on se fasse une petite chronique gardien de but, juste savoir comment vous voyez ça que les Hurricanes de Caroline entament la deuxième ronde des séries avec un coach qui n'a pas de contrat l'année prochaine. Rod Brind'Amour, pas de contrat. Richard,
écoute.
C'est-tu bizarre ou c'est pas bizarre?
Oui, c'est sûr que c'est bizarre, mais ça sera pas une distraction vu que c'est Rod Brind'Amour, parce que Rod Brind'Amour va pas faire en sorte que ça devienne une distraction. Exact. Alors, ça le sera pas. Mais c'est sûr que c'est étrange, puis ça nous rappelle que des fois, la direction là-bas, on prend des décisions souvent qui sont tout aussi étrange. C'est un club bizarrement mené. Je ne sais pas si vous avez vu passer des fois le propriétaire en entrevue.
J'ai vu
c'est un drôle de type. Honnêtement, puis tu sais, l'autre affaire, c'est que qu'est-ce que tu peux vraiment reprocher à Rod Brind'Amour? Absolument rien. C'est peut-être le club le mieux dirigé, d'ailleurs, en bon français, le mieux coaché de la Ligue nationale de hockey. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'aurais eu cette discussion-là, puis que j'aurais mis un contrat sur la table, puis garde, signe-là.
C'est pas inquiétant dans le sens que il y a une couple d'années, Don Waddell, le gérant général, a passé une demi-saison sans contrat. Et puis, c'était comme les deux, Waddell disait « j'ai aucun problème, j'ai confiance en notre propriétaire », et le propriétaire disait « j'ai pas besoin d'un contrat, une bonne poignée de main », et c'était une main qui avait fonctionné pendant une demi-saison, et là, depuis une semaine, on entend le propriétaire, on entend Waddell, on entend même Brind'Amour dire que il reste 5 des virgules attachées à tout ça, que personne a l'air inquiet. Mais c'est la façon qui est très spéciale de faire des Hurricanes.
Ouais, c'est un peu comme Martin Saint-Louis où on lui pose la question au point de presse, je suis pas inquiet, puis le lendemain, pouf, on annonce une prolongation de contrat pour Martin Saint-Louis avec le Canadien. Bon, laissons les coachs de côté, parlons des gardiens de but demain. C'est la chronique gardien de but avec celui qui défend les gardiens de but numéro un dans la Ligue nationale, Stéphane White.
Le seul
qui s'en contrebalance, Richard Labbé, ça sera le fun. OK, hey, question coach et gardien partant. Samsonov, honnêtement, c'est un pôle tchèque, fallait qu'il fasse contre Pasternak.
Oui, c'est facile à dire, mais ça venait vite en mots. Et puis le temps de réagir, je pense que tout le monde a été surpris sur ce fameux but-là. premièrement, t'as Mitch Marner qui s'est fait dépasser là, par Pasternak. T'as Riley qui a pas réalisé la situation, qui était très nonchalant à essayer de récupérer cette rondelle-là dans le coin. Et t'as Samsonov qui a été surpris par tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a un petit peu de blâme à tout le monde, mais ça s'est fait très vite. C'est un ce qu'on appelle un set play en anglais, là, un jeu
prédéfini
d'avance.
Moins préétabli.
Exactement. Et Pasternak a pris sa vitesse entre la ligne bleue défensive et la ligne rouge, et puis a battu tout le monde de vitesse. Et puis, je pense que c'est facile de blâmer Samsonov, mais je blâme Marner, puis je blâme Riley aussi. Mais en quelque part, faut donner crédit aux Bruins. Quel jeu parfait! Le setup play était parfait. Et puis, je pense qu'il a battu tout le monde de vitesse.
Bon, Richard, toi, tu blâmes Samsonov?
Absolument. C'est entièrement de sa faute. Ben non, mais écoute, il y a beaucoup de gens qui peuvent être blâmés sur cette séquence-là. Puis certainement, beaucoup de gens qui peuvent être blâmés tout court du côté de Toronto. Mais tu vois, on remarque, Stéphane, hein, depuis le début des séries, tout le monde disait, entre autres du côté des Jets, tout le monde disait que les Jets avaient tellement l'avantage devant le filet qu'eux autres, c'est sûr qu'ils
avaient... Stéphane a dit ça aussi à quelques reprises.
Je pense
avec raison, c'était le meilleur gardien de but dans la saison régulière.
Oh, OK, attendez une
minute. Qui est en nomination au Vezina, d'ailleurs.
En plus, attendez une minute. Je sais pas si Simon-Olivier t'as encore tes statistiques, mais au dernier balado, tu nous as sorti des statistiques dans les bocs en série de fin de saison. Comme quoi, c'est extrêmement compliqué. Stéphane, t'étais pas là, mais si Simon-Olivier trouve cette note-là, est-ce que t'as encore des chiffres de ça?
Ben, je les ai pas, mais je peux les résumer, c'était pas bon.
En résumé, Hellebuck a gagné 3 séries sur 9 depuis qu'il est avec les Jets.
C'était tout en début de carrière, parce qu'en fait, depuis la statistique très éloquente que j'avais sortie, je le rappelle, c'était après le premier tour des séries de 2021, où il avait été magistral contre les Oilers d'Edmonton, quand les Jets avaient balayé les Oilers. Depuis ce temps-là, depuis le début de la série contre le Canadien cette année-là, je pense qu'il y a 2 victoires ou 1 victoire et 11-12 défaites. Ouais. C'est vraiment, c'est un gardien
mais
qui
on fait vraiment
à garder ses matchs.
On fait vraiment ses matchs. Quand on fait les analyses et les prédictions, on a encore souvent ce vieux réflexe de dire eux autres vont gagner, ont le meilleur gardien. Et puis c'est tellement plus ça. Tu sais, maintenant, regarde l'Avalanche d'ailleurs. C'est l'Avalanche qui. Je vais poser la question à Stéphane. L'Avalanche a-tu un super bon gardien, Stéphane?
Ils vont-tu gagner contre Dallas?
C'est pour ça qu'ils vont perdre contre Dallas.
Exactement, moi aussi, je pense. Tu sais, puis regarde, là, tu sais, Shesterkin avec les Rangers, c'est un bon gardien. Est-ce meilleur qu'Anderson? D'après moi, oui. D'après moi, les Rangers vont gagner. Tu vois, il y a le raisonnement de dire, c'est pas automatique que ton gardien de but numéro 1 fasse en sorte, si c'est un des bons dans la Ligue nationale, fasse en sorte que tu gagnes une série. Mais si t'en as pas, t'as plus de chances de perdre.
Exact.
Moi, ça me ferait quand on dit que les gardiens de but n'ont pas d'impact dans les séries, que n'importe quel gardien de but moyen peut gagner une série. Totalement faux. Et ça dépend des contextes, totalement des équipes. T'as des équipes qui ont besoin qu'un gardien de but soit pour gagner. Et t'as des équipes qui ne l'ont pas besoin.
C'est que
souvent, ça dépend du contexte.
C'est que souvent, t'espères que ton gardien soit bon à ce moment-là. Puis là, ben, tu peux faire un petit bout. C'est ce qui est arrivé l'an passé avec Aiden Hill. Est-ce que Aiden Hill est un grand gardien? Non, mais il a été bon pendant le temps.
Tu sais, quand on dit un gardien est bon, là, c'est parce que ton gardien t'aide quand le club n'arrache. Il fait les arrêts importants quand le club n'arrache. Mais quand le club va bien, habituellement, le gardien de but, tu n'entends pas trop parler. Il fait son travail. Tu sais, dans le cas de Hellebuck, juste mentionner les statistiques qu'il y a eu en série de fin de saison, moyenne de 5,23, 870 en pourcentage d'efficacité. Puis Stéphane, il arrive en point de presse, puis il dit, je connais le meilleur hockey de ma carrière.
J'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Moi.
Ah oui,
j'ai
compris. Explique-nous, on ne comprend pas nous autres.
Qu'il se sentait bien dans le filet et qu'il se sentait confiant. Et puis, c'est pas comme si il était shaké ou il était pas en confiance. Il dit, je me sentais bien dans le filet, je me sentais confiant, je me sentais même très bien. Et puis, mais j'ai pas aimé qu'il donne la défaite, même si la défaite, c'est une vraie défaite, qu'il n'a pas vu la plupart des lancers, il n'a pas vu. J'ai regardé les séries, je regarde les buts à chaque jour, à chaque lendemain, je regarde les buts, et pas une fois, souvent des fois, et c'est vrai qu'il n'a pas vu grand-chose. Encore une fois, je blâme la défensive là-dessus, qui ont
pas faute du gardien, là.
Qui n'ont pas fait ce qu'on appelle les fameux box-out, et surtout, la défensive qui fait comme le Canadien de Montréal, qui essaye de bloquer toutes les lancers, et puis quand il les bloque pas, mais ça tourne dans le filet parce que tu viens d'obstruer ton propre gardien de but. Et ça, là, Hellebuyck, il a pratiquement dit à mot couvert.
Mais faut aussi des fois donner le crédit à l'adversaire. T'sais, moi, justement, quand la série a commencé, je pense que le premier contre l'Avalanche, je pense que le premier match s'est terminé, il avait accordé 6 buts à Hellebuyck. Je me trompe pas, 6 ou 7. Mais tu sais, je regardais les tirs en question, puis il y avait des tirs des ligues majeures là-dedans aussi. Là, puis je pense que l'Avalanche est équipé pour faire un bout de chemin, justement à cause de ça, parce qu'ils ont tellement de punch offensif, puis qu'ils sont capables de gagner des matchs de même. Mais, tu sais, je pense que de moins en moins, on va voir, tu sais, l'expression, là, un gardien qui vole une série à lui seul. Tu vas voir ça de moins en moins.
Ben, tu sais, Wall a passé proche avec Toronto, là. S'il se blesse pas dans le dernier match,
peut-être Jeremy Swayman a été.
C'est très bon.
Très bon. S'il est juste bon, mais c'est les Maple Leafs qui gagnent.
C'est clair. C'est clair. Vas-y, c'est mon tour.
C'est mon tour?
Oui, vas-y.
Je sais pas qu'est-ce que tu peux rajouter vraiment. Là,
c'est sûr que c'était vraiment
complet. Vas-y, essaye.
Je vais dire deux affaires. Je pense, en fait, ça fait longtemps qu'on en parle, et ça fait longtemps notamment que Stéphane en parle, il faut réduire la tâche des gardiens de but partant dans la Ligue nationale. Je ne crois pas qu'un gars comme Hellebuyck ou Vasilevskiy, c'est encore normal qu'il est dans la trentaine, ou Vasilevskiy a 29 ans, amorce 60 matchs par saison. Vasilevskiy, depuis qu'il est revenu sa blessure en fin novembre, a amorcé 52 des 62 matchs restants au Lightning. Je pense que c'est trop.
Ouais.
Et je pense que rendu en série, on s'entend, c'est des athlètes exceptionnels. Là. Je dis pas qu'ils sont pas en forme, mais on regarde les tendances des dernières années et c'est pas le gardien qui a gardé 60 matchs en saison qui gagne la Coupe Stanley. Bobrovsky, l'an passé, avait eu une cinquantaine de départs, a été très bon en série. Cette année, je suis curieux, il y a eu quand même 58 départs, mais là, il vient d'avoir un break d'une semaine. Fait que c'était... Mais tu sais, il a pas été magistral au premier tour non plus, le Bobrovsky qu'on t'aime pas. Donc, je serais curieux cette tendance-là. Combien de temps on va s'accrocher à cette tendance-là de donner à des gardiens de 30 ans 60 départs en saison qui s'attendent qu'ils donnent 20 autres départs de grande qualité en série?
Les
ça,
deux,
je comprends pas.
Tu viens de parler de Bobrovsky puis de Vasilevskiy. C'est parce que là, il y a une considération financière à ça. Si tu payes un gars 10,5 millions par année, c'est pas pour qu'il en gagne 48. C'est ça le problème. T'sais, à partir du moment où tu verses un montant d'argent aussi énorme que ça, vas-y là, 65 fois parce qu'on te paye pour ça. Là.
Mais un attaquant qui gagne 8, 9, 10 millions va jouer 20 minutes, va pas en jouer 40. Dans le sens,
vas-y Stéphane, vas-y.
Pas parce que tu gagnes 10,5 par année que ça veut dire que tu es rendu un surhumain.
Il reste que si tu joues trop,
c'est trop. Et puis Hellebuyck, c'était peut-être une bonne explication. Ça, c'est un des gardiens de but. Dans les 4 dernières années, c'est le gardien de but qui a joué le plus de matchs dans la Ligue nationale. C'est peut-être une bonne explication, ça, pourquoi que dans les séries, il n'est pas aussi dominant qu'il l'est dans la saison régulière. Moi, je trouve que Simon Olivier, c'est un très bon point.
La suite de ça, de ma réflexion, c'est je suis complètement soufflé de voir que autant d'équipes arrivent en série sans un bon adjoint. Et je comprends pas qu'il y ait pas plus d'adjoints de qualité dans les équipes en série. Je regarde les Kings de Los Angeles qui étaient plus satisfaits de Cam Talbot, qui arrive avec David Riddick, qui a été bon par ailleurs, mais qui est pour moi pas un adjoint de grande qualité dans la Ligue nationale. L'Avalanche qui arrivait sans bon adjoint, qu'une chance que Georgiev a tenu le coup parce qu'il y avait pas de plan B. J'aime bien Laurent Brossois, mais Laurent Brossois, c'est un gardien qui a une 20 à 25 départs par année dans la Ligue nationale. C'est un adjoint correct derrière un gardien qui prend beaucoup de volume.
Pendant que Jake Allen faisait de la télévision à CBC.
Exact. André, le Lightning n'avait pas de bon adjoint non plus. Donc, j'ai l'impression que les équipes, puis tout ceci, ils sont les conséquences directes ou indirectes du plafond salarial qui n'a pas monté aussi, là, mais j'ai l'impression qu'au cours des prochaines années, il va falloir qu'on change la dynamique des gardiens de but pendant la saison et en série, parce que je pense qu'un seul bon gardien pour aller en série, ben c'est pas assez, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. On a une situation où un gardien fait plus le travail, oups, on a un adjoint de qualité qui peut devenir hot et qui peut faire un bout de chemin, regardez ce qui est arrivé avec Toronto, ou s'il se blesse carrément, parce que tu sais, si Georgiev se blessait dans les séries contre l'Avalanche, peut-être l'Avalanche est plus là.
Fait que c'est... Tu vois le style de jeu qu'il y a présentement, puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus, puis on a eu la conversation à un moment donné aux amateurs de sport week-end. Écoute, on permet tellement à tout le monde de tomber par-dessus le gardien de but présentement, on a l'impression de vivre des matchs de rugby.
T'as totalement raison. Et puis, c'est très demandant. Très, très, très demandant. Encore une fois, Simon Olivier, encore raison.
Ben là,
une blessure et des mauvaises performances, t'as pas un bon deuxième, t'es dans le trouble. Et puis, ce qui est des contacts, écoute, pour revenir rapidement sur les commentaires de John Cooper, j'adore John Cooper, un des meilleurs coachs dans la Ligue nationale, mais quand il dit que les gardiens de but l'ont trop facile... Mais c'est le contraire. C'est la première fois que j'entends ça.
Ben, c'est parce que sur ça,
tout le monde dit de protéger les gardiens de but. Protéger les gardiens de but. Donc, t'as pas d'affaire dans la peinture bleue, dans le demi-cercle. Et puis, c'est ça.
Mais c'est tellement difficile à décider de non, ce qui est acceptable.
Non,
mais
non,
ouais.
C'est,
non, ben, c'est parce que, oh, mais attends, recule des années 90, hey, là les gars, partir, les, là. Attends, là. Tu viens-tu des années 90, là? T'avais, ouais. T'avais un bout du patin qui dépassait dans le bleu, puis automatiquement, c'était
okay, ça, c'est à l'extrême.
Ouais,
OK, ça, c'est à l'extrême.
Ben, l'année de Breton.
OK, mais ça, c'est à l'extrême, Richard. Tu trouves l'extrême pour donner,
pour avoir raison.
Amener un point. Ah oui, pour amener un point dans une conversation. Attends, juste à dire. Tu sais, la maladie que la Ligue nationale a à amener une production offensive accrue de la part des équipes fait en sorte que les officiels ne sifflent plus. Sifflent. Quand tu vois pas rondelle, siffle. Ils attendent.
Ouais.
Là, tout le monde, là, ça sort le scraper, toi, puis ça ramasse tout le monde. Puis le gars, on a rentré 8 gars dans le but, mais avec la caméra vidéo, on est capable de voir que la rondelle a passé de 3 mm la ligne rouge. C'est sûr qu'elle va passer. Siffle, t'es un arbitre, mais qu'est-ce que tu fais? Siffle!
Ouais.
M'emporte, là.
Ben oui, tu t'emportes, puis
mon pouls, là.
Mais t'as soulevé un excellent point, c'est que depuis quelques années, on voit vraiment que du côté des, je sais pas s'il y a une directive, probablement, mais on veut favoriser le jeu offensif, puis c'est correct. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Par contre, est-ce qu'on va trop loin avec ces histoires-là? Faut pas que ça devienne dangereux pour le gardien non plus.
OK. T'sais. OK, bon. Je me calme.
T'as demi-raison.
OK, à demi-raison. Merci. C'est gentil. T'as pas le choix. OK. Tu sais, on dit souvent, quand on arrive à la date limite des transactions, on se pose la question, puis je pense qu'on l'a fait même dans le balado. Qui a gagné aujourd'hui la date limite des transactions?
Ben oui, c'est bon.
Et
ça.
On se trompe tout le temps.
On regardait du côté de Vegas, puis on se disait, ah, mais mon Dieu, c'est les Golden Knights de Vegas avec cette cachotterie de notre capitaine qu'on ramènera finalement à l'ouverture des séries de fin de saison. On est allé chercher Hurtel, on est allé chercher Noah Hanifin, on est allé chercher Anthony Manta. Finalement, Vegas est éliminé. C'est pas que si tu gagnes à la journée de la date limite des transactions, tu gagnes en série.
Simon-Olivier doit avoir un fichier Excel là-dessus, là, parce qu'il garde un paquet de chiffres et de choses comme ça, mais c'est rarement arrivé, mettons, depuis 15-20 ans, qu'un club qui supposément gagne la journée des transactions soulève le trophée au mois de juin. Peut-être, Stéphane, je sais pas si t'étais là, les Blackhawks avaient ajouté Vermette, je me souviens.
C'était après 2015.
Non, mais ça avait été un joueur qui avait, je pense, qui avait été un bon joueur, là.
Pas Thomas Seppelin.
Non,
c'est différent. C'est différent.
Non, mais ça avait été une bonne acquisition.
Oui.
Et j'ai trouvé qu'il avait fait une différence. Je sais pas qu'ils ont gagné grâce à lui, mais il avait, je pense, fait une différence. Ça avait été positif. On va dire ça comme ça.
Mon problème, c'est les équipes qui vont justement chercher le gros joueur. Le O'Reilly dans le temps avec les Maple Leafs. Cette année, le Hertel, le Hanifin, les gros poissons là, à la dernière date des échanges, la dernière journée des échanges. Et c'est ça, souvent, qui marche pas, qui fonctionne pas. Moi, ce que j'aime, c'est les échanges de profondeur. Vermette, ça en était un.
Ouais.
Quand j'étais avec les Hawks, un Andrew Ladd qui jouait sur un troisième trio qui avait été très important pour nous, un John Madden qui jouait sur notre quatrième ligne, qui avait gagné 2 coupes cette année. C'est
avec
le genre. Un Pat Maroon cette saison avec les Bruins, un Corey Perry avec Edmonton. Moi, c'est des échanges-là que je trouve importants. Les gros échanges, là, souvent, là, ça brise la chimie de ton équipe.
C'est rare que les gros noms...
Ah, t'imagines que Bergevin avait été cherché pour profondeur Stahl et Corey Perry. Écoute, veux pas, là, c'est des pas outils. Là.
Ouais,
mais c'est des échanges-là que j'aime, moi, à date limite des transactions.
Quand les Rangers sont allés chercher Patrick King... J'ai trouvé que ça avait tout défait ce qu'il y avait.
Il n'y avait pas assez de spotlight pour le nombre de joueurs. Ouais. Tout le monde voulait avoir un petit brin de soleil. Simon-Olivier...
Tout ce que vous dites, j'abonde complètement avec vous. J'ai pas de document Excel là-dessus, Richard, mais j'abonde aussi sur le dé que je pense que c'est l'équipe qui apporte la profondeur qui gagne à la date limite de transaction. Et évidemment, j'étais sur le podcast de la date limite de transaction. Comme tout le monde, je pensais que Vegas avait eu une bonne journée. À mes yeux, aujourd'hui, l'équipe qui a gagné à la date limite de transaction, c'est les Stars de Dallas en allant chercher Chris Tanev. Ils sont pas allés le chercher à la date limite de transaction, ils sont allés chercher quelques semaines avant, je sais pas, c'était peut-être c'était pas pendant la pause du match des étoiles ou à peu près, contre un choix de deuxième tour et un choix de troisième tour. Il y avait un espoir aussi que je connais pas là-dedans. Et Tanev a immédiatement trouvé sa place. Chez les Stars, joue 23 minutes par match. excelle défensivement et les Stars adorent jouer à peu de défenseurs. Dans la série de 2021, ils jouaient à 2020, excusez-moi, quand ils sont rendus en finale de la Coupe, ils jouaient à 4 défenseurs. Là, on joue à 5 défenseurs. On fait jouer le bon Nils Lundqvist 4 minutes 30 par match et Ryan Suter quand même 18 minutes. Mais les autres, c'est Esa Lindell 23 minutes, Chris Tanev 23 minutes, Thomas Harley presque 24, Eskanen presque 28. Et c'est vraiment le morceau qui leur manquait. Et présentement, les Stars, ça a mal parti parce qu'ils étaient 0-2 contre Vegas. Mais ils vont être très difficiles à arrêter pour la suite. Et le fait est que, justement, quand ils ont magasiné, il n'y a pas eu d'extravagance. On a dit on a besoin de ce joueur-là. On a payé un prix, je pense, très raisonnable. Il leur rend des services exceptionnels. Même s'il n'y a aucun point dans cette série-là, ils n'ont pas besoin de support offensif. L'équipe est déjà forte offensivement. Il a besoin d'un bon défenseur défensif. Il fait ce travail-là manière phénoménale.
Hey, je regardais le match entre Dallas et Vegas, mais on va aller à la après, là. Je regardais le match, là. Dadonov, il joue bien au hockey. Honnêtement, Dadonov, l'ancien du Canadien, là, oui, il n'y a même pas de dedans, mais écoute, il joue bien. Là.
Il est arrivé ici dans un...
Il est bon.
Tellement dans un mauvais état d'esprit. Il n'avait pas le goût de partir. Il a été échangé. Moi, je me souviens, je l'avais rencontré à Brossard en septembre. Il y avait une face d'enterrement. Tu sais, des fois, malheureusement, ça arrive. Et lui, il était vraiment pas dans un bon état d'esprit, puis ça a pas donné des bons résultats avec le Canadien. Mais autrement, oui, c'est quand même un joueur qui a son utilité. Ça, c'est vrai.
Pour Dallas, il fait un job, honnêtement. C'est ça qu'on s'en parlait avec Simon-Olivier. Quoi, troisième trio dans le cas de Dadonov. Tu sais, quand t'as un club avec des meilleurs joueurs que toi, ces deux premiers trios, ça te donne un coup de main, puis Dadonov, il fait la job. Voilà. C'était la promotion de Dadonov sur le balado sortie de zone. On s'arrête là-dessus, on fait une courte pause. Pour retour, on plonge dans le deuxième tour des séries avec Boston Panthers, Hurricane Rangers, Colorado, Dallas et Edmonton, Vancouver. On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode de 58 avec Simon-Olivier Lorange, dit le gars qui fait des fichiers Excel, Richard Labbé et Stéphane White.
Ça en prend un.
Ouais, mais c'est drôle que j'ai cette réputation-là. Vous connaissez pas Guillaume Lefrançois?
Ouais, oui, il est pas que
toi. Il en fait des fichiers Excel.
Il est pas que toi.
Il en fait pour vrai.
Pour vrai?
Il se lève la nuit, puis en fait.
Ouais, on consacrera un autre podcast là-dessus.
Ma blonde est comme ça. Non. Bon, c'est un autre sujet. Ceci étant dit, deuxième tour des séries, Boston qui affronte les Panthers. Commençons avec celle-là. Les gars.
On dit le Boston, on pense.
OK. Mm. Mais moi, je veux juste te dire une chose. Le Boston, s'il joue comme il a joué contre le Toronto, ça se finit en 3 contre les Panthers. Est-ce que je me trompe en disant ça?
Je suis 100% d'accord avec toi. Même en 2, peut-être.
En 2 et 4.
Ça pourrait être ça. Je suis 100% d'accord parce que. Écoute, puis je veux pas faire rager les nombreux partisans des Bruins. Il y en a plus, hein, qu'on pense à Montréal.
J'ai jasé avec un partisan des Bruins tantôt avant de commencer le balado, puis il me dit si on joue contre ça, comme ça contre les Panthers, c'est fini. Ben, fait que c'est clair, même eux le voient.
Tu sais, je pense que cette série-là, Toronto-Boston, c'est plus les Leafs qui l'ont perdu que les Bruins qui l'ont gagné. Honnêtement. Et là, les Bruins pourront pas faire
Donne
ça.
Donne-nous un peu de crédit à Swayman.
Je suis d'accord avec toi, Stéphane.
Garde-moi encore ça au gardien de but.
Mais là, il a raison. Si Swayman n'est pas là, les Bruins sont même pas compétitifs.
C'est très bon. Mais je pense qu'ils peuvent pas jouer de même contre les Panthers. Je pense pas qu'ils peuvent jouer mieux. Alors, je pense que ça va...
Tu penses pas, toi?
Non.
Ah, moi, je m'attends à ça, moi.
Il y a un punch offensif en fin de saison, d'ailleurs.
J'ai jamais vu des revirements de même, Richard, ce jeu-là. Les défenseurs de Narontel.
T'en as déjà vu, t'as regardé 82 games de Canadiens.
Effectivement.
ça, c'est chiant.
T'as vu des revirements dans ta vie, là.
Mais bref.
Hey, on s'attendait pas à ça.
Non, nulle part. Mais écoute, ça, défensivement, c'était pas des bons matchs.
C'était affreux. Puis, tu sais, Pastrnak, bon, gros but, là, évidemment, pour finir la série. Mais avant ça, c'était laborieux un petit peu. D'ailleurs, son coach l'avait pointé du doigt lors du match d'avant.
Marchand.
Puis souvenez-vous, c'est le match numéro 6 où en milieu de match, il y avait un tir au but après 30 minutes de jeu. Boston avait un tir au but. Écoute, si t'arrives de même, tu joues le même contre les Panthers, ça se peut que ça finisse en deux, effectivement. Moi, je pense que les Panthers sont vastement supérieurs, sont en santé, sont reposés. Boston, qu'est-ce qui reste dans le tank? Ça, c'est l'autre question. Ils viennent vraiment, sont allés au bout d'eux-mêmes pour...
Je pense qu'il reste pas grand-chose. Début de série, avantage Boston, Swayman solide, opportuniste sur l'avantage numérique. C'était ça l'histoire des Bruins. À part de ça, il s'est rien passé.
Ben, exact. Je suis d'accord. Et puis, si les Bruins veulent avoir une chance, c'est de commencer cette série-là fort en remportant au moins un match sur la route. Parce qu'en ce moment, ils ont le momentum. Et puis, les Panthers font une semaine qu'ils n'ont pas joué. Donc, ça, là, il faut qu'ils profitent de ça, sinon, ils sont morts. Parce que plus ça va aller, plus que la fatigue va embarquer. Mm. Et puis, plus que les Panthers vont prendre leur rythme. Donc, c'est dans le filet. Et moi, pourquoi je vois que la Floride, écoute, c'est pour à peu près 100 raisons, mais surtout la raison de, ils ont le Patrice Bergeron des nouveaux, des années, des futures années en Barkov. Et donc, très grosse perte pour les Bruins en Patrice Bergeron. Et les Panthers, ils l'ont, le Patrice Bergeron, avec un des meilleurs centres de la Ligue.
Stéphane, je pensais que tu allais dire, du côté des Panthers, ils ont Bobrovsky, c'est ça?
Ouais, moi avec, je m'attendais à ça.
Je pense que ça s'équivaut dans le filet. Là, c'est pour ça que c'est pas là le edge des Panthers ou la faiblesse des Bruins. En deux très bons gardiens de but, mais la profondeur des Panthers et le fait qu'ils sont reposés va faire que les Bruins, ils seront pas là longtemps.
Je prends la balle au bon de ce que Stéphane parlait de Bergeron. Au début de la saison, avant la saison, on disait les Bruins, ça marchera pas bien parce qu'ils ont perdu Bergeron et Krejci. Finalement, Pavel Zacha, Charlie Coyle ont eu une très bonne saison, puis on s'est dit, ah ben les Bruins, de profondeur partout, il règle toujours le problème. Puis quand on dit on, je constatais ça. Les deux ont eu seulement deux mentions d'aide chacun dans la série contre les Leafs. Et j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'on voit la limite de remplacer des joueurs à l'infini par des joueurs un petit peu moins bons, ou parfois même pas mal moins bons. Et exactement comme Stéphane l'a dit, pour les lignes de centre, et les Panthers sont pas non plus l'exemple de la profondeur au centre de la Ligue nationale, mais on a tellement un bon joueur en Barkov que Coyle et Zacha vont devoir connaître une bien meilleure série parce que ils ont vraiment pas été des facteurs très impliqués ou très très déterminants contre Toronto, et ça va prendre littéralement tout le monde, c'est cliché là, mais plus on avance dans les séries, plus ça devient vrai, et sans plus de contribution des deux premiers centres, ça va être long. En fait, ça va être long, mon contrat ça va être court.
Et c'est qui le premier qui va faire la plus grosse niaiserie entre Brad Marchand et Nick Cousins? Moi c'est je prends des paris présentement, c'est
Nick Cousins, je te le dis tout de suite.
OK, un douche cousin. OK, on va passer quand même assez rapidement. Là, les Hurricanes contre les Rangers. Les Rangers ont déjà un match en banque contre les Hurricanes de la Caroline. Richard, comment tu vois cette série-là?
Écoute, je persiste à dire que moi, j'ai dit les Hurricanes qui gagnaient la coupe. Hein.
Contre les Rangers?
Je ne peux pas changer d'idée, je l'ai dit au début.
Ouais, là, tu, à la fin, tu vas te dire que j'ai pas raison. Ça va être dur.
C'est rare que je dise ça.
On fait une émission spéciale pour ça, je pense.
Mais je persiste à dire que les Hurricanes, c'est l'équipe la plus complète. Là, faut pas se laisser... berné par le résultat du premier match, qui était par ailleurs un dimanche après-midi. Qui c'est qui regarde ça? Ça devrait même pas compter, ça. Alors, moi, je persiste à dire que c'est les Hurricanes encore qui sont les plus complets, à mon avis.
OK.
Mais les Rangers sont très bons.
OK. C'est moi, lui.
J'ai aussi choisi les Hurricanes, et je pense aussi que c'est l'équipe la plus complète, mais... Bon. Les Rangers ont l'avantage du gardien de but. Frédéric Anderson qui a connu une saison formidable.
Ça veut absolument rien dire.
Ben,
on vient de le dire.
Frédéric Anderson a connu une saison formidable, mais Frédéric Anderson, c'est pas un gardien qui traîne la réputation d'être phénoménal en série. Il a été très bon au premier tour contre les Islanders qui ont pas été très productifs en attaque. Contre l'attaque des Rangers, je suis curieux de voir ça va être quoi la patience de Rod Brind'Amour, parce qu'on a quand même Kotchekov, le jeune, qui a eu une bonne saison. Et si on voulait justement donner un petit électrochoc, si besoin est, on aurait une option. Justement, ça, c'en est une équipe qui a deux bons gardiens pour les séries. C'est ma réserve, mais sinon, je pense que les Hurricanes ont le meilleur.
Mais là, attends, tu dis qu'il n'y a pas une bonne réputation en série. Le gardien des Rangers, c'est quoi sa réputation en série?
Chez Sirkin.
Ouais. Il n'y a pas une longue carrière.
Il commence à écrire, il a bâti sa réputation. Vas-y, Stéphane, mets-y du.
Il n'a pas assez joué pour dire qu'il a une mauvaise réputation ou une bonne. Il est en train de la bâtir.
Il n'y en a pas, ouais. Donc,
moi aussi, faut que je sois honnête, là, j'ai pris la Caroline avant que ça débute. J'ai été ébranlé un petit peu après le premier match, là, de dire pourquoi j'ai pris la Caroline.
Ouais.
Mais je reste avec la Caroline pour la profondeur uniquement. C'est la seule raison. Et il y en a fait que je peux vous dire, c'est que la Caroline a appris une chose hier. Soyez disciplinés.
Oui, ah, clairement.
Ouais. Oh.
Quel avantage numérique pour les Rangers de New York. Moi, je vais avec les Rangers, les gars, mais...
Avec peu de confiance.
Non, avec beaucoup de confiance. Okay. C'est un club qui est bâti pour aller loin. Je pense que les Rangers de New York vont... moi, je te dirais en 6 contre les Hurricanes. Oh. Moi, je pense que la ballonne va dégonfler de Frédéric Anderson. Puis l'autre gardien de but que tu as dit, là, on l'a vu à quelques reprises cette année, le gars, il pète les plombs des fois sur la glace.
Il est très
émotif. Fait que là, t'as un gars qui s'appelle comment? Chris Kreider, d'après moi, qui va s'arranger pour
Chris Kreider qui a déjà fait des choses.
Accidentellement.
On ne revient pas là-dessus.
OK, Colorado contre Dallas. Est-ce qu'on peut aller contre Dallas? Est-ce que c'est possible?
Hey, ça, c'est, ouais, c'est, celle-là, là, honnêtement, là, cette prédiction-là, je pense que j'étais debout toute la nuit pour analyser des choses. Oh, j'ai emprunté des fichiers Excel à Simon Olivier.
Oui.
Je trouve que c'est très, très difficile de départager. Parce que, écoute, Colorado, sérieusement, quelle puissance offensive.
Et là, tu te laisses berner par le punch à l'attaque de l'Avalanche.
J'ai beaucoup de misère. Là, j'ai fini par prendre Dallas parce que j'ai fait un pédouface, puis ça a donné Dallas. Fait que j'ai pris ça. Mais avec bien peu de... Mettons que si j'étais un parieur, je mettrais exactement pas d'argent sur cette série-là. Honnêtement, je trouve que ça peut aller vraiment d'un bord comme de l'autre. Je prends Dallas parce que...
T'as toujours eu raison en disant Dallas dans ta vie, tout sport confondu.
Non, ça c'est faux,
Richard. Okay,
j'aimerais ça qu'on parle pas de ça.
OK, parfait.
Parce que je pleure.
Tu fais pas référence au cowboy de Dallas.
Non.
Qui perd toujours.
Hey, dans les années 90, là, c'était le fun.
Qui vit dans le passé. Emmett Smith. Parle-moi d'Emmett Smith. OK, fait donc tu y vas avec Dallas, Simon-Olivier?
Dallas, je pense que ça va être une longue série et j'espère une palpitante série. Je veux dire, ces deux équipes
incroyables.
Ça aurait dû être une finale de conférence. Ce n'est pas le cas, mais profitons-en parce que je pense que ça va être un sacré duel. Dallas pour.
C'est
la
le moment de militer pour les 1-8, 2-7, 3-6, s'il vous plaît. Là, on ramène ça. Là.
Moi, j'ai pas vérifié. Ça aurait peut-être pu être ça de toute façon au deuxième tour. De toute façon. On n'en est pas là. Ouais. Mais j'ai dit Dallas en 7. Je pense que ça va être une longue bagarre, mais que Dallas, ultimement, le fait d'avoir une équipe plus complète, mieux construite, je pense que c'est ça qui va faire la différence.
Stéphane, de ton côté?
Je suis allé avec Dallas, moi aussi, en 7. Première raison, vous le savez, j'ai pas confiance en Georgiev. Et l'autre raison, ben, écoute, Dallas.
Tu donnes 3 victoires à Colorado si t'as pas confiance en Georgiev.
Pardon?
Si tu dis que Dallas gagne en 7, c'est que tu donnes 3 victoires à Colorado, mais tu dis que t'as pas confiance en Georgiev. Ça va pas se rendre en 7.
Exact. La seule affaire qui m'inquiète, moi, du côté de Dallas, c'est qu'ils viennent de jouer 7 matchs. 7 matchs très, très physiques, très, très difficiles. C'est la seule chose qui m'inquiète et c'est pour ça que je dis que ça va être long. Donc, c'est ma seule raison. Je veux pas d'autre raison. Honnêtement, c'est deux attaques très, 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 avec beaucoup de profondeur, très explosives. Mais Dallas, en passant, là, le jeune Wyatt Johnston, 20 ans.
Bon.
Tu sais, t'es bon, hein?
C'est incroyable.
Et quel français, hein? Je sais pas si vous l'avez entendu.
Il parle très bien français.
Ah ouais, j'ai pas pensé.
T'as vu à TVA Sport?
Ouais.
Oh mon Dieu.
Surprenant. Ouais, vraiment, vraiment.
Oh mon Dieu.
Ouais.
Bon, mais c'est bon.
Toujours beaucoup de respect pour ces gars-là.
OK, Edmonton. Edmonton, chronique jason français. Edmonton-Vancouver. Edmonton-Vancouver. Écoute, je me lance. Voulez-vous que j'y aille?
Vas-y.
Okay. Ouais, vas-y.
Honnêtement, avantage numérique, Edmonton, c'est. Je me demande comment il y a un club qui va faire pour arrêter ça. Fait qu'il faut que tu sois extrêmement discipliné contre les Oilers d'Edmonton. Puis les Canucks de Vancouver, tu sais, on est à Casey DeSmith quand même. Là. On est à.
C'est pas le gardien des Lions qui va être là?
Le gardien des Lions.
Lemko a patiné à la fin du premier tour.
Oh,
je sais pas.
Attention,
je sais pas.
Il a patiné. Mais clairement, donnons l'avantage aux Oilers d'Edmonton. Moi, je vais avec Edmonton en 6 contre les Canucks de Vancouver. Moi, tu vois ça, Richard?
Je vois exactement la même chose que toi. Puis en plus, du côté de Vancouver, il y a certaines personnes qui sont portées disparues, dont Elias Pettersson, qui disent je peux pas avancer si ce gars-là se manifeste pas. Mais du bord d'Edmonton, je pense qu'on n'est pas encore rendu au point où on va affronter quelqu'un qui va. Je vais dire en anglais, qui va exposer nos faiblesses. Vancouver va pas faire ça. Edmonton, ils vont perdre contre un club qui va être capable de contre-attaquer puis d'abuser leur défense ordinaire. Mais là, ça sera pas Vancouver, ça.
Simon Olivier.
Je suis tellement satisfait du choix de terme. moi aussi, j'ai dit Edmonton en 6 pour les raisons que vous avez énumérées. J'ai une réserve sur les Oilers qui ont pas eu une grande série à 5 contre 5 contre les Kings, mais je pense aussi que Vancouver a pas ce qu'il faut pour aller plus loin puis que les Oilers vont être trop forts pour eux. Donc, Oilers.
Voilà. Donc, toi, Stéphane, tu fais quoi? Edmonton, Vancouver?
Oh, Vancouver.
Quoi?
Edmonton, même si Demko sera là en très grande forme, Vancouver a toute une saison, mais c'est une équipe qui a pas fait les séries l'année passée, qui sont en progression, et là ils sont pas rendus là encore. Donc Edmonton en 6, aucun doute pour moi.
Ah ben là, les grands esprits se rencontrent, on a dit à peu près toute la même chose, Edmonton en 6. On parlait d'Edmonton qui a pas connu vraiment un adversaire imposant face aux Kings de Los Angeles. Il y a un gars qui s'appelle Pierre-Luc Dubois qui, dans ses entrevues de fin de saison, s'est fait poser quelques questions assez serrées en disant, écoute... un but d'insérer, mon ami, tu t'en vas où? Toi, tu viens de signer un contrat de 8 ans avec les Kings de Los Angeles. Est-ce que c'est un mariage qui est fait pour durer entre Pierre-Luc Dubois et les Kings? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 58 avec Simon-Olivier Larange, Richard Labbé et Stéphane White. Les gars, Pierre-Luc Dubois a connu des séries assez difficiles. Un seul but en 5 matchs. Lui qui a connu une saison assez difficile aussi. 16 buts, 24 passes pour un grand total de 40 points. Je rappelle qu'il a signé un contrat de 8 ans, 68 millions. 8,5 millions en moyenne par année. Il reste encore 7 belles années de hockey à donner aux Kings de Los Angeles. Ça va se terminer en 2030-2031. Bon, est-ce que c'est un mariage qui va durer? Je commence avec Richard.
Il peut pas avoir vraiment de divorce parce que je sais pas comment tu vas divorcer. Ça se peut pas quand même bien que les Kings disent ouais, finalement on t'aime pas tant que ça. Tu sais pas comment tu divorces.
Tu sais que j'ai lu en quelque part qu'il parlait de buy-out, là, ouais. de racheter le contrat.
Avec 7 ans à faire, ouais, ouais.
Il fallait que ça se fasse avant le 24 juin.
Simon-Olivier, t'as-tu un fichier pour le buy-out? Ouais, parce que ça doit,
non, mais en fait, ça fait que tu payes juste la moitié du contrat. Si tu veux vraiment faire un buy-out, il faut que tu le fasses avant le 24.
Ouais, mais tu l'as sur ta masse salariale pendant qu'on...
Mais juste la moitié.
Juste la moitié, ouais.
Juste la moitié.
Ouais.
On dit-tu les vrais chiffres ou on...
Va dire les vrais chiffres, là.
Je suis sûr on continue de garocher des affaires comme ça, qui sont inexactes, là. C'est, en tout cas, je veux pas vous déranger.
C'est correct.
Alors, la règle. Le rachat en général, généralement, c'est aux deux tiers de la valeur du contrat étalé sur le double du temps restant.
Du temps restant, ouais.
Pour les joueurs de moins de 25 ans, comme c'est le cas de Pierre-Luc Dubois, jusqu'au 24 juin prochain, donc c'est le tiers et non pas le deux tiers, toujours étalé sur le double du temps. Sauf qu'après ça, ça fluctue en raison des bonus de signature et tout et tout.
Fait que il traînerait
ça sur 14 années. Les 7 dernières années, c'est pas pire parce qu'il y a à peu près 1 million. Fait que avec le plafond salarial qui va être rendu à 95 ou 100 millions, ça va être marginal. Mais c'est quand même les prochaines années, tu sais, c'est 1,6, 1,5, 2,5, 3,8, 3,8, 3,8. C'est pas,
c'est pas
anecdotique. Je pense que c'est trop d'argent pour ça. Et aussi, tu sais, on n'a pas à assumer non plus que Pierre-Luc Dubois a désappris à jouer au hockey. Mmh. On a vu qu'il a connu une mauvaise série. On a tous.
Est-ce qu'il a déjà appris?
Oh.
Ah, ben là.
Voilà une excellente question, Stéphane.
Mettons que Judd a appris. OK, on va partir de cette idée-là. Ouais. C'est un bon joueur de hockey. Je veux dire, on peut l'aimer ou pas, mais c'est un bon joueur. Comme a dit Richard, les Kings se sont mariés avec pour au moins quelques années. Et il y a eu un changement d'entraîneur. Il y a plusieurs joueurs à la fin de la saison, notamment Kevin Fiala, qui a dit, ben, je pense que le système de jeu, le 1-3-1, on est peut-être rendu ailleurs. Alors, nouvelle saison l'an prochain, je sais pas, l'entraîneur, lui, je sais pas s'il est par intérim ou s'il est là pour de bon, Hiller. Mais, tu sais, ça va être néanmoins, ça va, il va pouvoir mettre son empreinte sur cette équipe-là. Si on apporte un nouveau système en attaque, ça reste un bon joueur de hockey. Pierre-Luc Dubois, probablement, quand Kendrick Kopitar va prendre sa retraite d'ici 2 ans, ses responsabilités vont changer. Je pense pas que les Kings ont abandonné l'idée d'avoir un bon joueur de centre en Pierre-Luc Dubois. Mais est-ce qu'il y a eu une mauvaise saison, puis surtout des mauvaises séries? Ben,
la réponse est oui. Mais une bonne organisation va faire maintenant en sorte que ils vont bien l'entourer.
Exact.
T'sais, tu vas pas abandonner. Pas à cet âge-là. Mais tu vas t'organiser pour que ça fonctionne. Et comment tu peux faire ça? Ben, c'est en l'entourant mieux. Certainement qu'il y a un bout de chemin que lui-même doit faire. Ça, c'est 100%
sûr. C'est ça. Là, t'as raison.
Ouais, quand on parle d'effort, en particulier, des fois, c'est pas la première fois qu'on fait remarquer que Pierre-Luc Dubois, en termes d'intensité, probablement qu'il pourrait en donner un peu plus. Est-ce que ça se règle? La réponse est oui. Alors, ça appartient aux Kings. T'sais, à partir du moment où tu t'attaches pour un gars pendant 8 ans, un, tu veux que ça fonctionne, puis deux, si ça fonctionne pas, en partant, tu veux t'arranger pour que ça fonctionne.
Comme un mariage, finalement.
Exactement. donc, quand t'es dans le char, puis la musique est pas bonne, puis que l'autre personne veut une autre musique, ben tu mets l'autre musique. C'est mes conseils.
Vas-y, Stéphane.
Je me comprends.
Pierre-Luc Dubois, c'est vrai que c'est un bon joueur de hockey. Il a tout, le gabarit, il a le talent, il a tout pour être un bon joueur de hockey. Ça, on met pas ça en doute. Mais, c'est pas aux Kings de s'arranger pour que ça fonctionne. C'est à Pierre-Luc Dubois de s'arranger pour que ça fonctionne. Parce que ça n'a pas fonctionné à Columbus pour X, Y raison. Et la même chose à Winnipeg, il y avait quelque chose qu'il aimait pas. Il aimait pas la ville. À Columbus, il aimait pas le coach. Là, c'est quoi qu'il aime pas à Los Angeles? C'est à lui à s'arranger pour que ça marche.
Le trafic, peut-être, à Los Angeles.
Ah, ça, c'est vrai. Peut-être.
Il y a-tu du trafic?
Ah, il doit quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose ailleurs. Mm. C'est rien que ça que je reproche à Pierre-Luc Dubois. C'est pas ses compétences de joueur de hockey. C'est qu'il y a tout le temps de bonnes raisons chaque année pour qu'il n'aime pas. J'aime pas ça. Le coach, j'aime pas. J'aime pas la ville à Winnipeg. J'aime pas. C'est à lui
de s'arranger. Toutes tes raisons valables, ceci dit. C'est moi aussi, Winnipeg, j'aimerais moins ça. En tout cas.
Ça dépend combien t'es payé.
C'est un bon point, ça dépend combien ça paye.
OK, ouais. Hey, les gars, le Canadien, puis on finit avec le Canadien, qui a signé un autre défenseur, un jeune défenseur, Adam Engström, donc, qui s'amène un contrat de 3 saisons avec le Canadien de Montréal. Écoute, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je le connais pas tant que ça, mais la chose que je suis surpris, encore un défenseur. Tu sais, à un moment donné, combien qu'on en veut? On arrête à combien? 40, 45?
T'as jamais assez de défenseurs.
Non, je comprends, là. Je comprends, là. Mais
ah, c'est l'autre administration.
Un jeune de 20 ans, ouais. Encore, on dit un
gars. Je troisième tour. Projet, un peu.
Encore?
Encore quoi?
Encore un défenseur?
Ouais. Non, mais.
Ben, s'il est bon, qu'est-ce que tu fais?
C'est sûr. Non, OK.
C'est, moi, je vois pas ça comme un problème. Je vois ça comme un beau problème pour le Canadien. Cela dit, tu sais, on a beaucoup parlé, justement, ils vont-tu échanger?
Ben, c'est
ça. Falloir.
Mmh. Éventuellement, ouais.
Éventuellement. Parce que là, même à Laval, je pense que si la saison commençait aujourd'hui à Montréal, à Laval, je pense que ce serait déjà complet en défense aux deux endroits. Fait que, selon moi, s'il y a plein à bouger. Je connais pas très bien. J'ai pas grand chose à dire sur Engström. Je le connais pas très bien. Il semblait avoir une bonne réputation. Mais tu sais, lui, c'est un gars qui s'en va dans la Ligue américaine l'an prochain, je crois.
Il joue en Suède, on verra.
Je pense qu'on va rapidement nous faire oublier un autre défenseur suédois du nom de Mathias Norlinder que je ne m'attends pas à revoir vraiment de ce côté-ci de l'Atlantique. Mm. Et voilà.
Faut faire bien attention avec ça. Hein, parce que Norlinder, d'ailleurs, c'est drôle que tu soulèves ce monde.
Il avait des clips vidéo partout, puis regardez comment il est bon.
Exactement. Moi, honnêtement, puis tu sais, pour vrai, là, je vais être critique envers notre industrie deux secondes, mais il y a tellement un marché maintenant de l'espoir.
Ouais.
C'est-à-dire que il y a du monde là,
du prospect.
Ouais, puis il y a des gens là qui font pratiquement une carrière de ah moi j'ai regardé tel chiffre de tel joueur dans telle ligue d'élite de Finlande. Je peux vous dire avec certitude qu'il va arriver au mois d'octobre dans la Ligue nationale. Tu sais, tout ça c'est juste du vent. Pour vrai. C'est juste du vent parce que tant que t'as pas vu le gars ici dans une compétition ici, tu peux pas commencer à faire des prédictions que ah oui, c'est un joueur de la Ligue nationale. Alors, le gars Engström, est-ce qu'il est bon? Aucune idée. On peut pas le savoir. Personne. On l'a pas vu encore dans l'environnement actuel. Quand on le verra ici, on aura une meilleure idée. En attendant, c'est juste du vent.
Stéphane?
Exactement. Je suis totalement d'accord. Et puis, écoute, on venait de parler de Mathias Norlinder. On avait les mêmes propos qu'on a en ce moment pour Engström de lui il y a quelques années. Mm. On avait les mêmes propos pour un Finlandais qu'on avait il y a quelques années, Otto Leskinen. On avait les mêmes propos pour un Suédois qu'on avait encore il y a 3 ou 4 ans.
Comment il s'appelait?
Magnus Nygren.
Ouais, mais le pire, Stéphane, te souviens-tu de Fabien Barnström?
Qui était la
8e merveille du monde que personne n'avait vu. Là, puis là, soudainement, là, il y a quelqu'un qui mettait des vidéos.
Faut faire attention. Mais il reste que le Canadien, en ce moment, tu as 10 défenseurs avec un bon potentiel qui n'ont rien prouvé encore pour la plupart, mais qui ont un bon potentiel 10 à 23 ans et moins. Mm.
Ça fait des munitions.
Ça commence à faire du trafic, ça.
Oui, mais ça fait des munitions.
On ne parle pas de savoir Madison Kovacevic. Mm. Qui sont plus vieux, mais ça commence à faire du trafic. Ouais. Mmh.
Non, mais c'est cute, c'est le fun, c'est beau sur une liste, mais clairement, moi, je regarde le hockey qui se joue présentement dans les séries de fin de saison. Le Canadien de Montréal est à des années-lumière de ça, là. Écoute, faut que tes défenseurs soient solides parce que ça frappe, t'as pas de place, il faut que tu penses vite.
Attends
une minute, là.
Années-lumière, demain, mardi soir, t'as le boulier, 8,5% des chances.
OK, mais même là, c'est pas de ça que je te parle. Je parle que le Canadien a présentement la possibilité d'avoir un club qui peut faire les séries.
Ouais.
Un club qui peut aller loin en série, ça c'est une autre phrase, c'est une autre émission spéciale, parce que c'est pas ça du tout, là.
Ouais.
Pour te battre en saison régulière, gagner des matchs, pour avoir le nombre de points nécessaires pour accéder aux séries, oui. Mais pour aller en série et gagner, non.
Il y a une statistique que moi, on peut pas en sortir. Cette année, le Canadien a fini 28e au chapitre des buts marqués dans la Ligue nationale de hockey. Regarde le hockey qui se joue présentement. Tu marques pas de but, t'es pas là.
Attends une minute, on a monsieur fichier Excel. Qu'est-ce que tu m'as parlé des unités spéciales?
Ouais, il y a un.
Écoutez, c'est bon.
Il y a un tableau qui a circulé ce matin sur Twitter. Okay. En fait, sur X. Excusez-moi.
L'ancien.
Comment ça te Je vois mon épicerie, c'est Steinberg encore. on a déjà parlé ici, c'est notamment Stéphane qui disait pour avoir un bon indicateur de la santé des unités spéciales globales d'une équipe, c'est simplement d'additionner avantages et désavantages numériques. Si on égale ou on dépasse 100, on peut croire que l'équipe va bien. Alors, les 8 équipes qui ont eu cette meilleure somme-là au premier tour, ben c'est les 8 équipes qui sont au deuxième tour.
Mmh.
Et en saison régulière, la majorité, en fait, 13 des meilleures équipes à ce chapitre-là, 13 des 15 meilleures équipes à ce chapitre-là ont atteint les séries et 7 des 9 meilleurs en saison sont au deuxième tour présentement. Et le Canadien a été parmi les derniers en avantage et en désavantage numérique au cours des dernières saisons. Donc quand tu disais justement que sur le plan offensif et sur plusieurs autres plans sont loin de ce qu'on voit présentement en série, mais on pourrait ajouter ça aussi que les unités spéciales sont pas là non plus. Fait que
ça fait bien les affaires.
Ce qui ajoute beaucoup une autre dimension à être dans le mix.
Fait que ça veut dire mettons un 80% de réussite en désavantage numérique, un 20% en avantage, tu fais un 100%. Là, tu fais oups, on est compétitif.
J'ai aimé que ce que tu disais, Jérémy. Il y a une grosse différence entre être dans le mix pour faire les séries et une autre différence pour aller loin dans les séries. C'est deux mondes complètement différents.
Puis je parlais des buts marqués. Le club qui a fait les séries, qui était le pire parmi les buts marqués, pire que le Canadien, c'est les Capitals de Washington.
Ouais.
Ça n'a pas été très long.
Ça a été bref.
C'était bien. Merci, bonsoir, on est parti. Bon, on s'arrête là-dessus pour le balado sortie zone, épisode de 58. Richard, tu restes parce que je veux comprendre qu'est-ce que tu as dit avec l'histoire des cassettes dans l'auto.
Oui.
Mariage, pas sûr d'avoir compris.
C'est parce que tu as besoin d'avoir la bonne musique avec
toi. OK, reste après le balado, je veux juste comprendre ça. Simon-Olivier, ça fut un plaisir, merci beaucoup.
Hey, bonne loterie.
Merci énormément. Richard Labbé, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Richard et Stéphane White. Merci beaucoup, Steph.
Ouais, merci. Bonne deuxième ronde, les gars. Merci.
Voilà ce qui complète le balado sortie de zone. On se reparle lundi, le 13 mai.